Dans vos carnets, vous vous montrez comme d'habitude très pudique envers votre vie privée qui ne concerne que vous. Cependant, vous nous faites comprendre à nous lecteurs qu'il y a eu un moment difficile dans votre vie, au moment où Vadim a rencontré Jane Fonda, où votre fils Christian était tout jeune. Et on sent bien que là, il y a eu un moment où tout s'écroulait, y compris peut-être la possibilité même d'être une actrice.
Oui, en vérité, je vais vous dire, c'est pas que dans mes carnets, je ne fais pas... Il faut savoir que ces carnets, je les ai écrits à l'époque. Je les ai transcrits tels qu'ils ont été écrits. Donc, ça n'a jamais été destiné à être lu. Donc, pour moi, il n'y avait pas d'histoire de lecture, de lecteur et rien. Simplement, ces carnets, c'est des carnets qui m'accompagnaient par rapport au tournage. Et c'est vrai que dans ces carnets, je parlais surtout du travail, de... c'était des impressions, c'était des choses d'humeur, c'était... ça me tenait vraiment en compagnie, parce que c'est vrai qu'il y a une certaine solitude quand même quand on tourne, surtout à l'étranger. Et donc, je n'évoque pas du tout les choses de sentiments, parce que c'était pas le but de ces carnets. Vous voyez, c'est pas un journal intime. C'est vraiment des choses de tournage, sont vraiment des carnets de, des petits carnets de bord. C'est vraiment un... comme une voyageuse qui serait partie faire un grand safari, vous voyez, et qui veut garder des souvenirs pour ensuite pouvoir retrouver plus facilement ses impressions de tournage. C'était vraiment ça. Donc, c'est pas que je suis particulièrement pudique, parce que je trouve que je dis des choses personnelles qui sont peut-être plus personnelles encore que si je racontais des faits avec des dates, des noms et tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas un journal auquel je me suis confiée sur le plan de mes relations sentimentales et surtout de la relation avec le père de mon fils. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai jamais fait, que je ne ferai jamais, parce qu'il y a un tel décalage entre la violence de ce que j'ai vécu, l'extrême. Moi, j'étais. C'est vrai que quand on est jeune, on est quand même particulièrement vulnérable parce qu'on est très romantique. Moi, je comprends très très bien, malheureusement je le sais, et puis c'est quand on a 20 ans qu'on peut mourir le plus facilement d'amour. Et c'est vrai que le suicide chez les jeunes est sans doute, c'est là où c'est le plus élevé, c'est dans cette tranche d'âge entre 17 et enfin entre 16 et 20, 22, 23 ans. Et je comprends très bien pourquoi, parce que c'est vrai que ça engage tout et que c'est tout et que ça représente tout. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de douloureux, ça a été un moment assez difficile. Mais c'est vrai que la séparation avec le père de mon fils a été une chose très, très difficile. Et c'est vrai qu'en vérité, je suis partie. Il m'a abandonnée, ou en tous les cas, il m'avait trahi plus exactement. Et donc, surtout à l'époque, c'est encore comme ça aujourd'hui, mais je pense que oui, la trahison ne supporte pas de... Pour moi, c'est quand c'est cassé, c'est cassé. Même si on répare, ce sera toujours une réparation. J'ai beaucoup de mal à envisager que ce soit autrement. Et donc, c'est vrai que j'étais quand même très jeune à l'époque et que j'étais terriblement angoissée à l'idée d'élever ce petit garçon que j'adorais, parce que c'est vrai que j'avais vraiment voulu avoir cet enfant et que je l'ai eu très jeune, et que c'est vrai qu'à 18 ans je voulais avoir un enfant, que j'ai eu ce petit garçon que j'ai adoré, et que ça m'a semblé vraiment que j'ai eu très peur de pas y arriver. J'étais très 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 angoissée, c'était un moment très très difficile, très douloureux, surtout qu'on n'a pas eu des très bons rapports, donc ça a été très très difficile. Et bien que j'avais ma sœur, que j'ai eu ma sœur à l'époque, mais elle était très critique aussi sur la vie que je menais et sur mes choix de vie, elle était très très critique, on s'engueulait beaucoup d'ailleurs là-dessus, donc ça a été vraiment la période de ma vie la plus sombre, et dont je ne tiens pas tellement à parler, parce que j'estime que c'est voilà, c'est des choses de douleur, de chagrin, de deuil, de choses très... Enfin, je veux bien en parler avec vous, parce que je l'évoque dans mon carnet, je sais, quand je l'ai relu, d'ailleurs, moi j'ai eu beaucoup de mal, hein. J'ai à décider que je l'avais gardé, ce carnet, parce que c'était en 68, je suis partie tourner aux États-Unis, et c'est vrai que c'était moins d'un an après la mort de ma sœur, et ça c'est vrai que c'est une des choses où en retrouvant ces carnets, j'ai retrouvé l'humeur et plutôt l'état de délabrement dans lequel j'étais. C'était très douloureux pour moi de relire ça.
Pour préparer ces entretiens, je me suis plongée aussi dans la presse de l'époque.
Ah oui.
Et là, j'ai vu que vous étiez déjà l'objet des paparazzi. Il y avait des articles dans les journaux en première page en parlant de tentative de suicide de Catherine Deneuve. Déjà,
ah oui,
vous étiez harcelée.
Tentative de suicide,
oui,
c'est vrai.
Oui.
Tiens, dans quoi? Dans les journaux.
Dans les journaux.
En dimanche, ouais. Ça, oui.
Ouais. Déjà.
Ben oui, donc mais oui, mais ça, c'est pour ça que moi j'ai toujours eu vis-à-vis de la presse une attitude très sévère, enfin en tous les cas une opinion très sévère, c'est que je trouvais insupportable de voir sa vie intime et personnelle racontée et étalée, et surtout racontée dans des termes comme ça de romanesque, je veux dire, je trouvais ça très vulgaire, vraiment vulgaire. Et ça, c'est vrai que j'ai pas changé beaucoup d'avis là-dessus, mais très jeune j'étais confrontée à ça, ça c'est vrai, oui.
Alors, je voudrais qu'on parle, si vous le voulez bien, de framboise d'Orléac, comme l'appelait François Truffaut.
Oui.
Est-ce que ça lui allait bien, framboise d'Orléac?
Ça lui allait très bien, oui, oui. Il lui écrivait comme ça pour la faire sourire. Oui, oui, ça lui allait très bien. Et c'est vrai qu'elle aimait beaucoup les framboises, ce qui est rare parce qu'elle n'aimait pas manger et qu'elle mangeait des choses extravagantes, ma sœur, des choses...
C'est vrai qu'elle mangeait rien.
Elle mangeait des choses extravagantes. Elle mangeait des pommes de terre chips qu'elle trempait dans du café au lait. Elle mangeait justement voilà des framboises. Elle mangeait à des heures très décalées. Elle aimait pas manger. Je dis toujours que les gens qui ne mangent pas, moi, ça ne m'inspire pas vraiment confiance, mais elle est l'exception à la règle pour moi. Elle prenait beaucoup de café au lait. Elle ne fumait pas, elle ne buvait pas.
Mais elle dansait.
Et voilà. Et je ne sais pas comment elle faisait pour tenir la nuit entière, parce qu'elle danse, elle pouvait danser comme, mais alors vraiment comme au Brésil, elle faisait jusqu'à tomber par terre, elle se saoulait vraiment de, elle pouvait danser pendant des heures sans s'arrêter, c'était incroyable. Je sais parce que moi je suis sortie en boîte de nuit très jeune et avec elle, donc moi je la regardais et j'étais sidérée parce que elle dansait et moi je fumais, je buvais un peu. Pas beaucoup, mais je buvais un peu et je parlais, je fumais. Donc on était comme un couple, vous voyez, elle dansait et moi je... Et moi, je fumais. Et je buvais. C'est comme ça que j'ai rencontré, d'ailleurs, le père de mon fils, d'ailleurs, dans une boîte de nuit, et en parlant, pas en dansant. Et c'est ce que j'aimais dans les boîtes de nuit, moi, c'était ça. Ceci dit, bon, après, ça m'est arrivé aussi de danser, il ne faut pas non plus exagérer, mais c'est vrai que je suis sortie très jeune, c'était à l'Epi Club, et c'était avec elle. Et c'est vrai que moi, j'étais là, je parlais, je la regardais, je me sentais... Vous voyez, j'étais pas seule en même temps. Elle était sur la piste, mais elle était là, c'était comme ma femme, quoi. Ma compagne, disons, voilà, ma compagne. Oui, je suis sortie déjà dans les boîtes de nuit à cause d'elle. Parce que si toute seule, je ne serais pas sortie à 17 ans, 16 ans et demi dans des boîtes quand même. Mais comme on était deux aussi, mes parents ils nous laissaient parce qu'on était deux, vous voyez, c'est moins inquiétant.
Auriez-vous fait du cinéma si elle ne vous y avait pas entraîné?
Non, je ne pense pas. Ça, franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas que, j'aurais... Non, je serais bien incapable de dire. Je pense que j'aurais fait une chose dans les arts plastiques, sûrement. J'aimais beaucoup... le dessin, j'aimais beaucoup la peinture, j'aimais beaucoup, j'aime toujours beaucoup d'ailleurs ça, mais je pense pas que j'aurais fait du cinéma, non, 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 non. En plus, moi, c'était pas l'image, au départ, elle avait fait le conservatoire, elle faisait du théâtre, et c'est vrai que pour moi, c'était elle l'actrice, vous voyez, c'était elle qui faisait ça, c'était elle l'actrice, j'étais la voir, on était la voir quand elle a joué Gigi, enfin, c'était elle l'actrice, donc... Je l'ai accompagnée parce que c'était, enfin, parce qu'elle me l'a demandé, parce que ça m'a amusé, parce qu'on a dit, ben, je me dis oui, pourquoi pas. C'est les vacances scolaires quand j'ai joué sa sœur dans un film, et je pensais vraiment pas que ça, je pensais vraiment pas à continuer, non, ça m'attirait pas.
Alors, il y a quelque chose d'étrange quand on relit cet entretien que vous aviez donné à Anne Andreu avec ce texte formidable de Patrick Modiano sur Françoise d'Orléac. C'est qu'on a l'impression que, finalement, ça a été un hasard pour vous de devenir actrice grâce à Françoise. Et petit à petit, insensiblement, les choses se sont déplacées. Françoise voulait continuer. Vous ne vouliez pas commencer. Mais finalement, les cinéastes, progressivement, sont allés vers vous.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre analyse parce que elle a disparu tellement jeune.
Vous voyez,
elle a disparu tellement jeune. Et il se trouve que moi, j'ai pas tourné tellement de films. Simplement, j'ai eu, c'est vrai, il y a eu un moment très difficile. C'est-à-dire qu'il y a eu une conjoncture qui fait que j'ai rencontré trois grands cinéastes dans 3 ans. Et qu'elle, elle était partie tourner à l'étranger, elle était partie tourner en Angleterre, elle a tourné avec Michael Caine, elle était partie. Donc, il y a eu un décalage qui fait que c'est vrai qu'il y a eu cette impression qui est vraiment qu'une impression. Ceci dit, je sais pas comment les choses auraient vraiment évolué. Elle était beaucoup plus attirée par le théâtre, hein, de toute façon. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où moi j'ai fait les parapluies, en gros, j'ai fait les parapluies, j'ai fait Répulsion et j'ai fait Belle de jour. Et il y a eu surtout cette chose, cette confrontation terrible à Cannes qui, moi, m'a un peu gâché mon bonheur. C'est vrai que les deux films, le film de Truffaut, La peau douce, était en compétition et que, en même temps que les parapluies, que les parapluies aient le grand prix. Et que, non seulement La peau douce n'a pas eu le prix, c'est pas ça, mais il a été mal reçu, le film à Cannes. Et ça m'a gâché beaucoup de... Oui, j'étais très... Non pas que j'aurais voulu que le film ait le truc à ma place, c'est pas ça, mais de voir la souffrance de François, si vous voulez, à ce moment-là, par rapport au bonheur de truc, c'est vrai que ça entame beaucoup le bonheur de voir quelqu'un qu'on aime souffrir.
C'est votre film qui a eu le grand prix.
Voilà, c'est les parapluies qui a eu le grand prix. Donc c'est vrai que ça gâche un peu le bonheur, ça gâche un peu le plaisir de voir quelqu'un dont on est si proche comme ça. Et ah oui, là, c'était vraiment un exemple terrible et un petit peu... Mais en même temps, c'est un raccourci parce que après, je veux dire, les choses sont plus... les choses se sont malheureusement... je ne sais pas d'ailleurs comment ça se serait passé. Mais Je ne sais pas comment ça se serait passé. Je ne pense pas qu'on aurait été rivales parce qu'on était trop proches et qu'en même temps on avait des rapports très conflictuels. On s'engueulait, il ne faut pas croire non plus, ce n'était pas du tout idyllique. Mais on s'adorait, on se connaissait très très bien. Mais je ne sais pas comment les choses auraient vraiment évolué. Mais je pense qu'on n'aurait pas été vraiment rivales parce qu'on était tellement différentes et tellement différentes de caractère et de personnalité. La seule chose, c'est que plus tard, c'est vrai que je me dis que plus tard en grandissant, peut-être qu'on aurait été plus proches, si vous voulez, parce que les différences s'atténuent quand même avec... Moi, j'aurais peut-être eu envie de jouer des choses qu'elle aurait pu jouer, mais il m'est arrivé en tous les cas de penser à des choses que j'ai faites ou des rencontres que j'ai faites, en me disant, et si elle avait été là, je pense qu'on lui aurait proposé, c'est elle qui aurait fait ce film. C'est vrai que quand je vois le Sauvage, vous voyez, je me dis que j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, c'est vraiment une comédie, j'avais fait La vie de château avec Rapneau, tout ça, c'est... Mais il n'empêche qu'a priori, c'était quand même plus le personnage de l'homme de Rio qu'elle avait tourné avec de Broca que le mien, quand même.
Alors, vous avez dit en riant que vous, vous étiez l'homme, c'est-à-dire qu'elle, c'était la femme?
Non, c'est-à-dire que...
je pense quand même.
Hein.
Le contraire, moi.
Eh ben oui, mais non. Mais l'homme au sens social du terme, c'est-à-dire l'homme avec les responsabilités, qui travaille, qui s'occupe des enfants. C'est que ma sœur, elle avait quand même ça, ce côté très... Mais en même temps, ma sœur, elle vivait comme une jeune fille. Mes parents, ma mère lui a dit qu'il fallait quand même songer à partir. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est installée en face. Elle a pris un appartement dans l'immeuble en face. Ce qui fait que ses cafés au lait et ses cornichons russes, parce qu'elle mangeait aussi beaucoup de cornichons russes, c'était son menu, sa préférée. Donc, ma mère allait lui préparer son petit déjeuner quand même, c'était quand même terrible. Donc, c'est vrai qu'elle, elle n'était pas mariée, elle avait une vie sentimentale extrêmement compliquée, mais elle n'était pas mariée, elle n'avait pas d'enfants, elle vivait avec beaucoup de peluches chez elle, elle sortait beaucoup, et moi, j'étais, apparemment comme ça, beaucoup timide, mais j'étais déjà séparée du père de mon fils, élevant mon enfant dans un appartement avec des responsabilités et un poids, si vous voulez, des choses matérielles, des choses concrètes de la vie qui m'angoissaient par moments, mais que j'assumais quand même, alors qu'elle, elle était encore une jeune femme qui pouvait rentrer à n'importe quelle heure, personne ne l'attendait, vous voyez, elle faisait ce qu'elle voulait, elle rentrait quand elle voulait, en plus, elle avait ma mère était en face, donc... Elle vivait comme une jeune fille, donc je disais que c'était elle, elle était la femme, elle se conduisait comme la compagne, et moi j'étais plutôt, déjà avec des responsabilités énormes, et j'étais plus sage qu'elle, oui, plus extrême qu'elle peut-être par moment, mais plus sage aussi, enfin plus... Elle était vraiment, elle était très très, si on parle de fantaisie, elle était vraiment la quintessence de la fantaisie, oui.
Pourtant, c'était la grande sœur. Normalement, elle aurait dû vous enseigner vous conduire.
Mais non, mais ça vient me conduire. De toute façon, moi, quand j'ai décidé une chose, personne, dans le domaine de la vie personnelle, personne ne peut me faire changer d'avis. Ça, c'est terrible, mais c'est vrai que personne ne peut me faire changer d'avis. Je suis irréductible là-dessus.
C'est drôle ce que vous dites, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est exactement une phrase que vous prononcez dans le film « Ma saison préférée » d'André Téchiné. Donc, il a dû vous l'appliquer.
Ah oui. Ah oui, ça c'est vrai, je suis irréductible. Mais oui, mais vous me disiez, elle était la grande sœur. C'est vrai, elle avait 18 mois de plus que moi. D'abord, c'est pas énorme.
Mais elle dépend quel âge.
Oui, ça dépend. Enfin, disons que 18 mois de différence à 22, 23 ans, vous voyez, c'est pas une grande différence. Quand on est tout petit, peut-être, mais après, ça compte plus beaucoup, 18 mois. Mais toujours dire que moi, je suis partie de chez moi et j'ai eu un enfant, vous voyez, tandis qu'elle, elle était encore chez mes parents. Elle vivait comme une jeune fille, vous voyez. Tandis que moi, je suis partie très jeune. Ça a été un drame, mais je suis partie très jeune et je suis partie pour vivre avec un homme et j'ai eu un enfant, tout ça. Donc, même si j'étais la plus jeune, j'étais la plus grande quand même. Et oui.
Vous avez plusieurs cinéastes en commun avec Françoise. Il y a Polanski, il y a Truffaut,
De Broca.
Ouais,
ouais.
Et puis il y a aussi évidemment Jacques Demy.
Ouais,
alors c'est
ouais.
Demy qui a été le plus loin quand même dans la scénographie de la complémentarité des deux sœurs,
absolument,
qui est complètement sensuelle encore aujourd'hui quand on revoit le film.
Ouais.
Comment est venue l'idée? Est-ce que c'est vous qui lui aviez suggéré?
Pas du tout. Je crois qu'il nous a vus ensemble et... Et c'est vrai qu'à la limite, Françoise commençait une phrase, moi je la finissais. C'est vrai qu'il y avait quelque chose de très... Oui, je crois que c'est nous avoir vus ensemble qui lui a donné envie d'écrire cette histoire. Ça l'amusait, quoi, la vivacité, notre rapidité, nos différences et nos ressemblances, quoi. Ça l'amusait de d'écrire autour de ça, de...
Il vous a beaucoup observé avant d'écrire ou...
Non, il connaissait très peu Françoise. Non, il connaissait pas beaucoup... Je me souviens, mais il la connaissait au cinéma, il l'avait vue au cinéma. Il l'avait vue au cinéma, il la connaissait surtout du cinéma.
En tout cas, il a accusé vos ressemblances entre vous deux dans le film.
Oui, nos ressemblances
et vos, fous rires, vos...
Oui.
Votre proximité physique aussi, votre... Vos câlineries, vos cajoleries, cette espèce de chose qui est étrange entre des sœurs. Hein.
Oui, ça a été d'ailleurs, ça a été très, très éphémère, malheureusement trop court. Mais pour moi, ça a été très important d'avoir fait ce film avec elle. Parce que c'est vrai qu'on se voyait beaucoup, on se voyait dans la vie. Mais si vous voulez, le fait d'avoir eu à répéter, à aller préparer le film, le chorégraphe du film était anglais, donc on a été à Londres ensemble. Elle était très proche de mon mari. Moi, j'étais mariée à l'époque. Et elle était très proche de lui. On a voyagé en Angleterre ensemble. On répétait à Paris ensemble. Le tournage a été très, très long. On était dans le même hôtel. Enfin, tout ça a fait que, si vous voulez, on a passé quelques mois ensemble et qu'on ne se voyait pas autant, finalement, que ça. Parce que quand on avait chacune sa vie, on se parlait au téléphone, on se voyait. Et ça, pour moi, c'est une chose vraiment très, très importante. Mais malheureusement, ça a été très, très bref, puisqu'elle a disparu un an après et que ça a été vraiment donc très bref. Mais c'est vrai que je suis vraiment... j'étais très, très heureuse d'avoir pu vivre ça. Non pas qu'on était en conflit avant, mais on n'était pas aussi proches. On ne se voyait pas autant. Et là, ça a été difficile, d'ailleurs, quand le film s'est arrêté. Moi, j'étais très contente de l'avoir... retrouvé comme quand on était à la maison, quoi, finalement, puisque le tournage, ça a été ça, quand même, c'est de se retrouver tous les jours ensemble, de se parler, de s'engueuler, d'être comme ça, comme deux sœurs, quoi, pas deux actrices, deux sœurs.
Vous dites que vous avez appris non seulement votre rôle par cœur, bien évidemment, mais aussi que vous connaissiez par cœur le rôle des autres.
C'est
très compliqué.
Mais oui, non, mais c'est-à-dire que quand on apprend les playbacks, si vous voulez, qu'on doit les apprendre par cœur, automatiquement, c'est vrai qu'on enregistre quand même, on est obligé d'entendre ce que les autres répondent aussi. Donc on le connaît aussi, le texte. Mais c'est les parapluies, je pense, que je connais le mieux. Parce que le film était entièrement chanté, alors que dans Les Demoiselles, c'était pas toujours... Donc je crois que c'est les parapluies que je connais le mieux et ça m'étonne encore parce que c'est vrai que c'est quand même très, très loin et c'est vrai que je connais encore des pans entiers des scènes. Oui.
Alors vous êtes devenues toutes les deux quand même des espèces de bohémiennes, de luxe, demandées par des producteurs internationaux et des cinéastes du monde entier.
C'était vous elle qui était bohémienne, moi j'étais pas tellement bohémienne. Je pouvais pas, moi j'avais un enfant, j'avais un appartement, j'avais une nounou, tout ça, j'étais pas vraiment...
Oui mais enfin,
elle était très bohémienne. Oui, non, bien sûr, mais elle était surtout, elle était très bohémienne, puis elle était très extravagante, hein. Elle était très extravagante, elle voyageait avec ses animaux, elle mangeait pas de viande, elle était toujours avec ses lunettes noires, elle avait vraiment des goûts extravagants, alors que moi j'avais vraiment des goûts, j'avais des goûts plus classiques, quand même. Quelle photo vous cherchez quand on sort de l'avion?
Voilà, photo. Alors, vous la connaissez, cette photo?
Oui, c'est une...
Vous avez des chaussettes montantes?
Absolument, mais ça, vous avez oublié, mais c'était l'époque. Ça, c'était l'époque Carnaby Street, Londres. Vous savez, on portait des jupes et des chaussettes Burlington, là. Absolument,
voilà.
Oui.
Vous êtes sur le tarmac de l'aéroport.
Absolument.
Vous êtes en train de poser devant les photographes. Et on a l'impression que vous pouvez aller au bout du monde et rien... Là, voilà.
Mais c'est vrai. Hein,
rien ne pourra vous arriver parce que vous êtes toutes les deux.
Absolument, mais ça, c'est vrai.
Voilà.
Mais ça, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent... vous avez vu, on a toutes les deux notre petit sac Hermès. Avec ce que c'est drôle. Ça, je me souviens, ce sac Hermès, c'est le premier truc que je me suis acheté avec l'argent que j'ai gagné. Alors, elle est en pantalon. Non, elle n'a pas ses lunettes, là. Et où est-ce qu'on est? À Londres, à mon avis.
Vous en avez.
Et c'est le contraire, c'est moi, oui. Mais ça, je pense que c'est au moment du tournage. On allait à Londres. Je vois qu'elle a son sac avec ses bougies Rigaud dedans, je reconnais. Ce sacré avec ses bougies parfumées. Parce que ma sœur, elle voyait avec des valises pleines de bougies et de produits Guerlain. Elle emportait des choses comme si il y avait la guerre. Elle emportait des valises avec des produits de beauté entiers. Je suis même étonnée d'ailleurs qu'elle ait ce sac à la main. On a toutes les deux notre petit sac Hermès ravissant. Elle est mignonne. Et je peux dire que son manteau est en lapin et pas en fourrure, parce que ça, il n'était pas question qu'elle porte des vraies fourrures. Hein. Elle n'était pas du tout comme moi. Là, on était très... Mais c'est vrai, quand je vois cette photo, c'est vrai que je me dis que... De toute façon, quand on se sent bien avec quelqu'un, quand on se sent si proche, c'est vrai qu'on se sent invulnérable quand même. Quand on est deux, je veux dire, qu'on se sent... c'est une folie, je veux dire, deux, c'est pas naturel, c'est pas normal. Mais quand on se sent si bien à deux, on a l'impression que rien ne peut vous arriver, c'est vrai. J'aime beaucoup cette photo.
Mm. Et oui, quand votre sœur a disparu, vous avez envisagé d'arrêter le cinéma?
Non,
même pas.
Non.
Pas du tout.
Non, j'étais clouée au sol, j'étais clouée, tétanisée, et je n'ai... Non, 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 je pensais surtout à survivre. Non, je pensais, j'ai pas du tout pensé. D'abord parce que je travaillais quand c'est arrivé. Donc j'ai déjà été embringuée dans un tournage quand c'est arrivé qu'il a fallu que je continue.
On vous a pas autorisé à arrêter?
Si, attendez, je vous dis, c'était même la veille de mon premier jour de tournage. Quand j'ai tourné Benjamin avec Michel Deville. Si, si, je suis, bien sûr que je suis revenue à Paris, mais je veux dire que je suis revenue une semaine après et que j'ai fait le tournage comme ça dans un état second, mais que je tournais. Et qu'après, malheureusement, c'est vrai, je dis malheureusement parce que je pense qu'il aurait fallu arrêter et se poser, essayer de. Et que j'ai enchaîné les tournages et que cette activité me permettait de continuer, que j'avais l'impression que c'était une sauvegarde et que c'est évidemment le contraire qu'il aurait fallu faire, mais ça c'est. Moi, à l'époque, j'avais l'impression que c'était ça qui me permettait de pas sombrer.
Oui, c'est-à-dire d'enchaîner, d'oublier, enfin de faire semblant d'oublier.
Enfin, en tous les cas, de moins penser. Pas oublier, c'est impossible, jamais, mais de moins penser. De moins penser et d'arriver à surmonter, oui, voilà. Et donc, je tournais beaucoup à l'époque et j'ai eu beaucoup, j'ai une période où j'ai beaucoup tourné. Donc, la question s'est jamais posée. Non, la seule question qui s'est posée, mon agent me l'a posée, c'était une femme qui m'avait dit, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait bien de reprendre votre nom? Et ça m'a semblé impossible. J'ai dit non. Maintenant, je regrette un peu quand même. Je regrette un peu parce que je ne me rendais pas compte à l'époque. J'ai dit non, 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 je ne vais pas changer de nom. Je ne vais pas reprendre mon nom comme si c'était une manière de... Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un peu de regret qu'il n'y ait pas mes deux noms à coller. D'abord parce qu'il n'y a rien à faire de neuf, ce ne sera jamais mon nom.
Mais c'est quel nom?
C'est le nom d'une fille de ma mère. Mais ce ne sera jamais mon nom. Quand je l'entends, c'est vrai que c'est moi, mais ce sera moi. Je me sens vraiment toujours. Moi, je suis d'Orléac et je resterai toujours. Mais ça reste. Vous voyez, c'est vrai que ça reste. C'est mon nom d'actrice, voilà.
Mais finalement, est-ce que c'est pas mieux quand on est une actrice de ne pas avoir un nom et se faire un nom?
Non, ça, non, avoir un nom et se faire un nom, non. Mais ce qui est peut-être bien en effet, c'est d'avoir un nom qui est votre nom. De travail, qui n'est pas vous. Et puis, mais comme moi, j'ai déjà tendance à avoir cette façon de voir les choses, ça accentue peut-être encore plus les choses. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de moi qui n'est pas du tout, en effet, il y a une partie de moi qui est vraiment d'Orléac, quoi, qui n'est pas, je n'ai pas essayé de réunir forcément toujours les deux, vous voyez. Mais oui, je pense que c'est bien d'avoir un. Simplement, je suis triste aujourd'hui parce que c'est vrai que mon père n'a eu que des filles, donc, en plus, je préfère ce nom. Comme sonorité, je préfère mon nom de d'Orléac. Oui, je préfère ce nom-là. Bon, enfin, maintenant, c'est trop tard.
Et est-ce que vous croyez, comme François Truffaut, que les absents, les disparus sont toujours avec nous?
Oui. J'ai quand même... non pas par croyance religieuse ou par... mais parce que je pense que c'est comme les pensées, les êtres, si vous voulez, même s'ils ont disparu. Je pense qu'on est habité par ce qu'on a vécu et ce qui vous a accompagné. Donc si ces gens ont été importants dans votre vie, ils vous accompagnent parce qu'ils font partie de votre univers. Je pense que oui, moi les gens que j'ai vraiment aimés et que j'ai connus et qui ont disparu, absolument, oui, ils vivent en moi, oui, ça, oui. Ah oui.